Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce podcast du bulletin du mois de février 2024. Je voudrais aborder ici avec vous trois articles bien particuliers qui sont très importants dans le cadre de notre porte-voix syndicale. Le premier portera sur l'importance de la déontologie professionnelle dans nos professions libérales. Le second article abordera un sujet qui est d'actualité pour tous les professionnels, qui est la facturation électronique. On sait que le projet de loi a été déposé et donc je fais une petite synthèse. Cette synthèse a été, vous pouvez la retrouver dans le bulletin de février sous la plume de François Coutureau. Et dernier point que je voudrais aborder durant cette demi-heure, c'est finalement les dernières mesures urgentes à prendre lorsqu'une entreprise se trouve en difficulté, parce que vous savez que la loi sur l'insolvabilité a été changée récemment en septembre 2023, que les premiers cas pratiques sont envisagés par les tribunaux et qu'il y a moyen d'en tirer des leçons. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, le premier point, c'est l'éditorial de Gérard Delvaux, notre président. Qui voulait revenir sur, parce que nous sommes interrogés régulièrement par les membres dans le cadre de nos permanences, sur des pratiques déontologiques peu ou pas du tout respectées. Ainsi en est-il du non-respect de l'obligation de prendre contact avec le confrère en cas de reprise de dossier. C'est important. Le non-respect de l'obligation de prendre contact avec le confrère en cas d'acceptation d'une mission ponctuel, alors que je dirais vous êtes dans le cadre d'une mission d'audit, telle que par exemple une mission d'audit pour les actionnaires dans le cadre de l'article 301 du CSA. Le non-respect de l'obligation d'établir un inventaire contradictoire en cas de reprise de dossier. Cet inventaire doit être contradictoire et signé par les deux parties. Le non-respect du principe déontologique d'indépendance de fait et d'esprit au sein d'un même réseau, c'est important et souvent n'est pas respecté. Le non-respect aussi de la communication commune qui a été élaborée par l'IRE et l'ITA, notamment dans le cadre de l'obligation, dans certains cas et pour certaines entreprises selon leur seuil de bilan de compte de résultat et d'équivalent temps plein, l'obligation de nommer un commissaire reviseur et inversement, l'obligation de faire appel si le commissaire constate que dans ses travaux, l'entreprise fait appel à un externe, un expert comptable fiscaliste ou un expert comptable certifié externe qui n'est pas repris sur le registre public de l'ITA, eh bien, le commissaire doit adresser par écrit cette mention au conseil d'administration, puisqu'il y a des sanctions pénales, je dis bien pénales, à la clé. Alors, au-delà de ça, Gérard Delvaux voudrait rappeler quand même quelques dispositions applicables à toutes les missions. La première, c'est en cas d'acceptation de mission, en raison notamment des risques liés inévitablement à toute relation d'affaires, mais aussi et en raison des responsabilités professionnelles attaché aux travaux, il est indispensable que la structure d'exercice soit attentive aux critères d'acceptation d'une nouvelle mission. Et j'en veux pour preuve l'indépendance que vous devez témoigner vis-à-vis du client, la compétence et les aptitudes pour réaliser la mission qui vous est demandée et qui doit bien être décrite dans la lettre de mission obligatoire, l'intégrité du client, si dès le départ, vous sentez qu'il y a des points d'achoppement avec le client, et nous y reviendrons tout à l'heure, parce qu'il ne vous remet pas les documents à temps, parce que finalement il ne répond pas à vos questions, c'est aussi un élément clé dont vous devez tenir compte avant que d'accepter le client. Il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre vous et le client. La disponibilité est suffisante et l'établissement strict d'un budget d'honoraires, de manière à ce que vous puissiez non seulement documenter votre dossier pour la revue qualité, mais également pouvoir justifier vos honoraires vis-à-vis du client qui de plus en plus souvent remet en cause les honoraires et fait du shopping aux honoraires les plus bas possibles. Respect de l'obligation de vigilance relative notamment à l'identification du client. Pour les missions récurrentes, pas pour les missions ponctuelles, il faut aussi apprécier périodiquement si des changements éventuels sont intervenus dans la situation du client. Les missions peuvent aussi varier, et dans ce cadre-là, il faudra réévaluer les risques et les facteurs de risque qui peuvent être très variés, mais donc soyez attentifs, à la date de clôture des comptes, de vérifier si au niveau de la composition, de l'actionnariat, des activités du client, rien n'a changé parce que tout cela influencera bien entendu votre propre mission. Et donc, dans les exemples que M. Gérard Delvaux cite, il y a par exemple comme risque du client ben, la non-communication de documents ou d'informations nécessaires à donner par le client pour que vous puissiez exercer votre mission. Le non-respect par le client, et il ne vous le dira pas nécessairement, de la loi ou même de certains règlements. La restriction dans la mise en œuvre de vos propres diligences parce que vous adressez des demandes de renseignements à votre client pour pouvoir continuer votre mission, et systématiquement, il ne répond pas, ou en tout cas, il fait la sourde oreille. Et point important sur lequel Gérard Delvaux veut insister, c'est le non-paiement ou la limitation des honoraires. À ce titre, Gérard Delvaux a récemment pris la parole devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, devant des magistrats professionnels et devant des juges consulaires, pour évoquer la situation, on peut dire ça, ubuesque, dans laquelle se trouve, d'une part, le client, entreprise en difficulté, qui souhaite demander la protection d'une procédure de réorganisation judiciaire ou même de médiation privée, et d'autre part, le professionnel qui, suite à la négligence du client ou de son manque de discernement, ne paye plus le professionnel, alors que c'est justement à ce moment-là que l'entreprise, qu'elle soit société ou ASBL, a le plus besoin d'une situation comptable à jour pour pouvoir jauger de sa continuité dans les 12 prochains mois. Et c'est ici que je voudrais souligner qu'il y a des réponses pragmatiques à apporter à ce phénomène. 1. Le professionnel doit tenir une comptabilité au moins le mois et vérifier chaque mois si l'entreprise franchit la ligne de non-retour au travers des différents clignotants du CSA et du livre 20 du Code de droit économique. Citons par exemple la sonnette d'alarme, la mention dans le rapport de gestion en cas de perte récurrente, mention dans l'annexe des comptes annuels avec un business plan à l'appui de la simple mention de continuité. Vérifier aussi les dettes impayées d'un trimestre d'ONSS de TVA de précompte. Et enfin, des clignotants comme des créances clients irrécouvrables ou encore des institutionnels impayés. Ça, c'était le premier point d'attention. Deuxième point, le professionnel qui constate, et ça, c'est vraiment très, très important, et il y a une évolution dans la jurisprudence des tribunaux de l'entreprise, le professionnel qui constate un compte courant débiteur chez le client doit prendre la précaution de lui écrire en l'informant des conséquences de ce compte client débiteur. Quel que soit d'ailleurs le montant, le principe même doit être une politique de maintien de la mission au sein du cabinet. En annexe de son information et de sa communication écrite au client, il est recommandé au professionnel de soumettre à la signature de ce même client les documents suivants avant la clôture des comptes annuels et de chaque état intermédiaire souhaité par le client. Ces documents sont lesquels? Un historique du compte courant débiteur sur tout l'exercice comptable, ou en tout cas la partie d'exercice comptable, qui doit être signée par le client. Si le client refuse de rembourser son compte courant débiteur, il vous revient de lui faire signer un contrat de prêt stipulant le taux d'intérêt du marché. et pas un taux d'intérêt trop favorable. Il faut aussi prévoir une information écrite sur les conséquences fiscales de l'existence de ce compte courant débiteur, des arrêts de sanctions disciplinaires par manque de devoir d'information aux clients ont déjà été élaborés par les auditeurs au sein de la commission de déontologie de l'Institut. Information écrite sur les conséquences civiles et pénales, pas seulement fiscales, mais aussi civiles et pénales de l'actionnaire imprudent qui, en faisant augmenter son compte courant débiteur, met en péril la continuité de l'entreprise. L'information écrite selon laquelle un procès-verbal du conseil d'administration doit comporter cette information en termes clairs et le même procès-verbal doit être signé par l'actionnaire ou l'administrateur en question. Enfin, l'information écrite à donner lors de l'Assemblée générale ordinaire ou éventuellement extraordinaire si on est dans une mission spéciale et une mention claire à ce propos dans le PV de l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Ça, c'était le deuxième point auquel nous voulions vous rendre attentif. Le troisième point, à supposer que toutes ces précautions aient été prises et que le professionnel se retrouve face à un client en difficulté, se pose toujours la question du non-paiement de ses honoraires. Eh bien, dites-vous que ce non-paiement des honoraires est aussi un clignotant qui vous permet de communiquer cette information à la Chambre des entreprises en difficulté. Ça devient donc le non-paiement des honoraires par le client qui a un compte courant débiteur gigantesque et qui ne reconnaît pas ce compte courant gigantesque. C'est un clignotant à écrire auprès de la Chambre des entreprises en difficulté, avec l'accord d'ailleurs des tribunaux de l'entreprise. Enfin, quatrième point que l'on voudrait souligner, dernière alternative, l'une des trois précédentes invoquées n'exclut pas l'autre, c'est que lors du dépôt d'une procédure en réorganisation judiciaire, et ça c'est vraiment très important, les honoraires impayés du professionnel comptable soient couverts par une dette qui peut devenir à elle seule, dans la nouvelle législation de la PRJ, une créance extraordinaire dans le cadre d'une classe particulière de créances, conformément à la nouvelle loi du 7 juin 2023 sur les nouvelles procédures de réorganisation. Je voulais vraiment souligner les points importants relayés ici par Gérard Delvaux auprès des tribunaux de l'entreprise. Il l'a fait auprès du tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Il l'a fait auprès du tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon et il le fera prochainement auprès du tribunal de l'entreprise de Namur. Deuxième thématique que je voudrais aborder avec vous et qui est la thématique de la facturation électronique. Vous savez qu'un projet de loi a été déposé devant le Parlement, notamment pour la mise en place par les assujettis TVA de ce que l'on appelle maintenant une facturation électronique structurée. C'est toute la différence entre ce qu'on appelait facturation électronique auparavant, puisque c'est un simple PDF pouvait être considéré comme une facturation. Maintenant, on va vers, sur base d'une directive d'ailleurs européenne, vers une facturation électronique structurée. Le projet de loi a été déposé à la Chambre et introduit l'obligation pour certaines opérations entre assujettis, puisqu'on commence par les B2B, d'émettre des factures électroniques structurées qui peuvent être traitées de manière automatique par ces derniers, et ce, à partir du 1er janvier 2026, et cette fois-ci, il n'y aura pas de report. Concrètement, cela signifie que le projet instaure une obligation spécifique dans le cadre de certaines opérations entre assujettis, je l'ai dit en B2B, en vertu de laquelle émettre et recevoir des factures électroniques structurées constituera la règle. Des concertations avec les entreprises, avec l'ITA, avec les stakeholders sont déjà en cours et l'exposé des motifs indique qu'une période transitoire suffisamment longue sera prévue. Ben, c'est entre maintenant, février 2024, et le 1er janvier 2025, permettant aux opérateurs de se préparer correctement aux conséquences de l'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation. L'exposé des motifs prévoit également des mesures d'accompagnement, notamment fiscales, qui seront prises afin de limiter autant que faire se peut l'impact financier des nécessaires développements informatiques que cette nouvelle obligation pourrait entraîner, et en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Je pense que cet article signé par François Coutureau insiste bien sur ce dernier point, et je pense qu'au niveau du ministre des PME, notamment David Clarinval, il a fait, si je peux me permettre l'expression, son job, puisqu'il a bien reconnu que pour les petites et moyennes entreprises, cette nouvelle obligation allait sans doute engendrer des frais financiers supplémentaires. Dernier point que je voudrais évoquer avec vous, au travers aussi d'un article, d'un dossier spécial qui a été repris dans le bulletin de février de l'Ordre et signé par Gérard Delvaux et Nathalie Procureur, c'est notamment le fait que dans le cadre des entreprises en difficulté, la première chose à pouvoir déterminer, avant même que de s'adresser soit à la Chambre des entreprises en difficulté, soit même avant de s'adresser à un avocat, c'est de pouvoir disposer d'une situation comptable à jour, le plus à jour possible, de manière à pouvoir établir un diagnostic financier. À ce titre-là, l'expert comptable, je le rappelle, lorsqu'il constate des faits graves et concordants menaçant la continuité de l'entreprise, eh bien, il doit évoquer par écrit cet élément auprès du conseil d'administration. Ça, c'est un premier point. D'autre part, ben, vérifier aussi systématiquement si la société a encore une capacité financière et si les dettes n'entament pas de manière exagérée, ou en tout cas de manière rédhibitoire, les capitaux propres. Je vous renvoie là aux articles du CSA et à l'article 20.21 du Code de droit économique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que prolonger fictivement la vie d'une entreprise lorsqu'il est prouvé que celle-ci ne pourra faire face à ses engagements à long terme engage la responsabilité et civile et contractuelle et pénale des dirigeants d'entreprise. Je vous rappelle que lorsque la responsabilité pénale est engagée, elle ne peut pas être couverte par une assurance responsabilité des administrateurs. La conviction de continuité d'exploitation doit nécessairement pouvoir être justifiée et permettre de démontrer aux acteurs judiciaires, chambres d'entreprise en difficulté ou bien l'expert en homologation, c'est-à-dire le juge délégué en homologation, tout ça doit être conforté par un business plan. Attention aussi, c'est très important, à l'article 20.23, paragraphe 3 nouveau, qui dit que l'expert comptable certifié, le conseil fiscal certifié, l'expert comptable fiscaliste et le reviseur qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants qui révèle une probabilité, je dis bien une probabilité d'insolvabilité, en informe par écrit et de manière circonstanciée le débiteur. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons très très fort sur le fait que pour pouvoir répondre à cette exigence de probabilité, de détection de probabilité d'insolvabilité, il faut absolument tenir des comptabilités. Un, à jour, le jour au jour, le jour, et d'autre part, avoir des situations mensuelles sur lesquelles vous pouvez vous baser pour détecter tous ces clignotants. Voilà, je pense que de cette manière-là, j'ai fait un tour d'horizon. Peut-être terminer cet article signé par Gérard Delvaux et Nathalie Procureur par quelques points. Évidemment, tout ce qu'on vient de citer sont des éléments qui contribuent au diagnostic que l'expert comptable doit faire, doit établir, mais soulignons quand même que généralement, l'entreprise en difficulté doit d'abord et avant tout, pour retourner la situation et rebondir, faire appel en premier lieu aux actionnaires afin de recapitaliser l'entreprise pour autant, bien entendu, que l'activité soit rentable et que les actionnaires puissent faire apport d'argent frais dans la société. Il a encore été souligné par le président d'ailleurs, président de l'entreprise, président de l'entreprise francophone de Bruxelles, que la plupart des sociétés sont sous-capitalisées. Donc, faire appel aux actionnaires pour recapitaliser. Deuxièmement, si on voit que ce n'est pas possible, il faut peut-être privilégier la liquidation judiciaire ou volontaire, ou éventuellement même la faillite, avant que d'aller vers une procédure de réorganisation judiciaire. Si on va faire cette dernière solution, procédure de réorganisation judiciaire ou médiation, il faut vraiment avoir de bons arguments parce que sinon, c'est tout le tissu économique, c'est-à-dire les créanciers du débiteur défaillant qui vont en pâtir et c'est là le rôle indispensable du professionnel du chiffre qui doit pouvoir à un moment donné dire sur base des documents chiffrés que vous me donnez, ce ne sera pas possible, il faut aller vers une solution beaucoup plus radicale qui n'est pas non plus quelque part intolérable puisque maintenant on peut faire faillite à plusieurs reprises, mais ça évite d'infecter, c'est un peu le terme, d'infecter le tissu économique par des difficultés supplémentaires. Voilà, tous les autres articles, vous les retrouverez. Et je vous en souhaite une très très bonne lecture dans le bulletin de l'ordre de février qui sera mis à votre disposition et qui vous sera envoyé. Et à toutes et à tous, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous retrouver pour le podcast du mois de mars. Merci à tous, à très bientôt.